Un journal présenté ce soir par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Les masques désormais obligatoires dans les lieux publics clos sont parfois une charge lourde pour les familles. Le point sur les aides et la gratuité dans ce journal.
La rentrée universitaire se fera-t-elle masquée? Une des données du casse-tête de septembre avec l'augmentation du nombre de bacheliers.
La Chine veut rendre coup pour coup à Washington qui l'accuse d'entretenir un réseau d'espions sur son territoire. À Paris qui le soupçonne de maltraiter la minorité ouïghour.
Et puis les robots tueurs font aussi la une. C'est un peu comme dans la dissuasion nucléaire. Personne ne veut utiliser de telles armes, mais tout le monde veut bien les posséder.
Avec l'extension du port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés, plusieurs députés exigent désormais sa gratuité, ce à quoi le président de la République a répondu fermement non, l'État et le contribuable n'ont pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps, a affirmé Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Qui peut donc obtenir des masques gratuitement? Qui peut bénéficier d'une aide? On fait le point avec vous, Cosima Medialem.
Alors eh bien Isabelle, sachez déjà qu'il y a des personnes qui bénéficient de la gratuité des masques. Tout d'abord les malades du Covid-19 et leurs proches, les professionnels de santé et également les allocataires de l'AME, l'aide médicale d'État, qui peuvent en obtenir depuis le déconfinement. Aujourd'hui, le gouvernement veut réenclencher la distribution des masques, mais cette fois-ci pour les personnes les plus précaires. Dans cette catégorie très large, on y retrouve les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, anciennement la CMU. Sont concernés également les 2 millions de Français porteurs de fragilité, c'est-à-dire les personnes âgées, les patients avec des pathologies respiratoires, cardiaques ou encore les femmes enceintes. Pour ces personnes, l'achat de masques avec ordonnance est remboursé par l'assurance maladie. C'est une distribution donc plus ciblée que celle organisée lors du déconfinement. Le gouvernement avait distribué 5 millions de masques par semaine via les communes. Et il y a également des initiatives régionales à l'image de l'Île-de-France. Sa présidente Valérie Pécresse a annoncé aujourd'hui que des masques en tissu lavable seront fournis gratuitement aux 500 000 lycéens de la région ainsi qu'aux associations caritatives.
Cosima Mesidialem. Frédéric Vidal présentait aujourd'hui son plan sur la recherche. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est revenue sur la rentrée universitaire qui s'annonce compliquée entre la crise sanitaire qui va demander de nombreux aménagements de distanciation sociale et puis la hausse du nombre d'étudiants cette année. Hakim Kasmi.
Ce sont pas moins de 35 à 40 000 étudiants de plus qui sont attendus en septembre. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui veut privilégier les cours en présentiel dans les amphis, promet des moyens financiers supplémentaires, à commencer par 3 200 euros par étudiant en première année de licence, une somme qui doit permettre notamment de financer le dédoublement et les cours en ligne. Une décision que salue Christine Gangov-Ziegler, la vice-présidente de la conférence des présidents d'université.
Lorsqu'on s'organise à distance, lorsqu'on fait de l'hybridation de formation, il y a des coûts supplémentaires qui s'imputent sur les universités, puisque parfois nous sommes amenés à dédoubler certains, ou pourront être amenés à dédoubler certains cours, à réorganiser, à faire des plans d'équipement aussi numériques. Donc c'est très lourd pour les universités, effectivement.
Quant aux syndicats étudiants, ils sont inquiets et demandent des réponses concrètes. Orlane François, la présidente de la FAGE.
On a pour l'instant une ministre qui dit mettre des moyens sur la table pour venir accompagner la rentrée, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations plus précises. Il y a des dialogues qui sont établis entre chaque chef d'établissement et des recteurs sur des territoires, mais pour l'instant, c'est un peu du rafistolage. Là, il nous faut vraiment un engagement budgétaire clair.
En attendant, Frédéric Vidal a confirmé ce matin sur notre antenne la création de 10 000 places supplémentaires, notamment dans les filières paramédicales, en particulier dans les écoles d'infirmières où la demande est importante avec le coronavirus, mais également en BTS.
Hakim Kasmi. La France va-t-elle fabriquer des Terminators pour faire la guerre? La course à l'armement se poursuit dans le monde. De plus en plus de pays font appel à l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense. La France, troisième exportateur d'armes aussi. La Commission de la Défense nationale a commandé à deux députés un rapport sur l'état des lieux des armes létales autonomes dans le monde, autrement dit des robots tueurs. Les deux élus préconisent la poursuite de la recherche en intelligence artificielle pour la défense. Alors Camille Kaufmann, cette question, faut-il avoir peur des robots tueurs?
Alors non, les deux rapporteurs veulent mettre le holà à ce débat, même si nous en aurons les moyens technologiques d'ici peu, la France ne créera pas d'armes létales autonomes, c'est en tout cas ce qu'ils assurent. En revanche, la France ne va pas rester à la bouche alors que les autres passent à l'électricité. Le ton a été donné par les deux rapporteurs. La course à l'armement est déjà lancée et même si la France met 100 millions d'euros par an dans l'intelligence artificielle de défense, elle doit aller plus loin. C'est ce qu'explique le député En Marche, Fabien Goutefard.
Au risque d'un déclassement stratégique, d'un décrochage stratégique, la France doit travailler sur plus d'autonomie dans les armes, mais toujours en gardant l'ultima ratio, si vous voulez, qui est le contrôle humain de dernière instance. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on est plus dans Iron Man que dans Terminator. Mais c'est important parce que Iron Man, c'est un humain à l'intérieur d'une machine, et en fait, c'est de l'aide à la décision.
De l'aide, mais jamais un substitut à l'humain. Voilà un des 11 principes que la France applique depuis septembre dernier en matière d'intelligence artificielle de défense. 11 principes donc adoptés par plus de 80 pays, dont la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais ces principes ne sont pas contraignants et certaines associations comme Stop Killer Robots, Bannissez les robots tueurs, demandent l'arrêt de tout développement d'armes autonomes. Déjà en 2015, le directeur de SpaceX, Elon Musk, et l'astrophysicien Stephen Hawking dénonçaient les potentiels dérive liée à l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense.
Camille Kaufmann. Des rumeurs sans fondement. Le porte-parole de l'Élysée dément la volonté d'évincer de son poste le préfet de police de Paris, Didier Lallement. Le ministre de l'Intérieur a aussi déclaré conserver toute sa confiance au préfet controversé pour sa gestion du maintien de l'ordre et de l'affaire Chouvia, du nom d'un livreur mort après un simple contrôle de police. Affaire Chouvia pour laquelle l'IGPN, la police des polices, estime qu'un des policiers a bien pratiqué un étranglement arrière. Le policier est aujourd'hui mis en examen pour homicide involontaire. Robert Ménard, soupçonné de corruption et d'abus de biens sociaux. Une enquête a été ouverte par le parquet de la juridiction spécialisée de Marseille. Le maire de Béziers, proche du Rassemblement national, se serait fait financer un meeting, un clip, une plaquette et un site internet qui n'a jamais vu le jour par une société immobilière. Cette société, la Socrirain, a entre-temps obtenu un permis de construire pour un complexe hôtelier à Béziers. De leur côté, l'élu comme l'entreprise démentent. Un document pour l'histoire, 450 photographes attendent toujours la grande commande nationale promise par Emmanuel Macron pour documenter la crise d'aujourd'hui et en faire les archives de demain. Les photographes très touchés eux aussi de plein fouet par la crise, ils espèrent une commande ambitieuse, un peu à l'image de celle qui avait été lancée aux États-Unis entre 1935 et 1942 pour couvrir la crise économique et puis l'entrée en guerre, un travail qui a marqué l'histoire de la photographie. 450 photographes ont donc signé une tribune publiée aujourd'hui dans le journal Le Monde. Margot Delpierre.
Robin Jafflin fait partie des signataires. Photojournaliste depuis 4 ans, il aime le documentaire, le long cours et s'occupe aussi d'éduquer le public aux médias. À cause du confinement, ses différents projets sont rapidement tombés à l'eau jusqu'en septembre.
Enfin, j'ai eu de la chance dans mon malheur, entre guillemets, dans le sens où j'avais une résidence journalistique en Moselle. Comme c'était plutôt bien payé, ça m'a permis de finalement lisser les quelques semaines, quelques mois où ça a été compliqué et où du coup j'avais aucun revenu. Et après, c'est piocher dans les économies quand on en a. Et puis sinon, c'est de la débrouille. Moi, par exemple, j'ai revendu quelques appareils photo argentiques, des choses comme ça, pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards.
Plusieurs fois, il a pensé arrêter ce métier, mais s'y accroche, d'autant qu'il y a beaucoup à montrer, à dire sur la période inédite qu'on traverse. Samuel Bollendorf, lui aussi signataire, est photographe depuis 20 ans.
La colère a toujours grondé, mais les photographes, par nature, sont assez indépendants et ont toujours eu du mal à se rassembler, à fabriquer une corporation assez forte, comme on peut la voir dans le cinéma. Et c'est vrai que là, on voit de plus en plus les photographes être capables de se réunir. Il est temps d'agir et de les soutenir et de soutenir cette profession qui documente les archives de demain, mais qui aussi est un enjeu de démocratie. C'est comme le journalisme, c'est comme la presse. On a besoin d'avoir des photographes. Et effectivement, ils commencent à se réunir et peut-être qu'à terme, on pourrait presque espérer une forme de CNC pour la photographie ou qui puisse soutenir les photographes au quotidien et de façon pérenne.
Dans cette tribune, les photographes réclament le lancement d'une grande commande nationale promise par Emmanuel Macron.
Margot Delpierre. Delphine Ernotte, reconduite à la présidence de France Télévisions pour 5 ans, elle entend, dit-elle, promouvoir la culture, la jeunesse et l'information. C'est la première présidente à accéder à un deuxième mandat. À l'étranger, ce nouveau coup de froid diplomatique entre la Chine et les États-Unis. Washington donne 3 jours à Pékin pour fermer son consulat à Houston, Texas, qui serait, selon le gouvernement américain, le cœur du réseau d'espionnage chinois sur son territoire. Pékin a bien sûr tout de suite menacé de représailles et dénonce une provocation américaine. À New York, Loïc Loury.
Le consulat chinois de Houston a été fermé pour protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains. Voilà la justification avancée par l'administration Trump qui reste sur cette histoire très évasive. Le régime communiste, dit-elle, s'est livré par le passé à un espionnage massif, s'est mêlé de politique intérieure américaine et a exercé des pressions sur des responsables économiques. Hier soir, on sait aussi que les pompiers et la police de Houston ont été appelés au consulat pour des documents qui auraient été brûlés dans la cour du bâtiment. Mais derrière cette affaire, surtout, se déploie toute l'escalade sino-américaine de ces derniers mois. Les allégations de Donald Trump sur le virus chinois, les pressions exercées suite à l'instauration de la loi sécurité à Hong Kong et plus généralement la rivalité, notamment technologique, entre les deux géants. Washington franchit cette semaine un pas supplémentaire après avoir inculpé hier 2 hackers chinois accusés d'avoir espionné des entreprises engagés dans la recherche autour du coronavirus. Les autorités américaines n'ont pas précisé si leur sort et la fermeture du consulat de Houston étaient liés.
Loïc Loury à New York. La Chine aussi sous le feu des critiques de la France pour la façon dont elle traite sa minorité ouïghour. Une intervention devant l'Assemblée nationale de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères hier, qui a condamné le non-respect des droits de l'homme dans la région du Xinjiang. Aujourd'hui, la Chine dénonce tout simplement de fausses accusations, Nathanaël Charbonnier.
La Chine, critiquée par la France pour son non-respect des droits de l'homme, cela faisait longtemps que le sujet n'avait pas été abordé aussi directement. C'était hier, devant l'Assemblée nationale, avec la voix de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
Dans l'immédiat, nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone.
Jean-Yves Le Drian qui condamne la Chine, mais ce qu'il faut entendre, c'est la question qui lui était adressée, du député Hubert-Julien Laferrière, qui dit clairement les choses.
N'ayons pas peur des mots. Il s'agit bien ici d'une entreprise organisée et institutionnalisée d'éradication d'une population. Oui, mes chers collègues, nous sommes devant un crime contre l'humanité.
Des accusations graves contestées évidemment par la Chine, auxquelles la France répond trop mollement, estime la communauté ouïghour, Dilnur Rehan, la présidente de l'Institut ouïghour d'Europe.
Ce que nous attendons de la part de la France, des actions, des sanctions, des timides réactions, des timides condamnations, ne pourra pas stopper réellement la Chine dans cette folie.
Stopper la dictature chinoise avec cette question qui se pose, peut-on continuer de faire des affaires sans s'occuper des droits de l'homme en Chine? Assurément, la réponse est dans la question.
Nathanaël Charbonnier. À l'heure des vacances, s'il va à Londres, le touriste doit absolument voir le London Bridge, Big Ben et les joyaux de la couronne. Eh bien, c'est impossible aujourd'hui d'aller visiter la Tour de Londres où sont exposés les bijoux. Par manque de touristes, les emplois des beef eaters, les gardes royaux très chamarrés, leurs emplois sont donc menacés, eux qui font le guet depuis plus de 500 ans. Une coupe budgétaire dans l'une des plus anciennes traditions autour de sa gracieuse majesté à Londres, Élodie Goulesque.
Visière sur le visage et sourire aux lèvres, le personnel de la Tour de Londres accueille les visiteurs qui arrivent au compte-gouttes. Après 4 mois de fermeture pour cause de coronavirus, la reprise se fait en douceur, mais aussi dans la douleur pour les Beefeaters, ces gardes des joyaux de la couronne depuis 1485. Selon certains visiteurs, sans ces figures emblématiques vêtues d'uniformes rouge et or, la Tour de Londres ne serait plus la même.
On vient aussi pour les voir eux en même temps qu'on visite la Tour de Londres, donc ça nous rend triste, c'est sûr.
C'est triste dans un sens, mais je pense qu'avec la situation actuelle, beaucoup de gens vont perdre leur emploi ou devront changer de travail.
C'est compréhensible car il y a moins de touristes, mais ils font partie de la culture britannique, donc je pense qu'ils devraient tout de même en garder quelques-uns.
Parmi les 37 hallebardiers, 2 ont déjà accepté un départ volontaire. Si le nombre final n'est pas encore estimé, les gardes de la tour ne disparaîtront pas, selon Laura Hutchinson, porte-parole de HRP, l'association qui gère le lieu.
C'est impossible d'imaginer la tour sans eux, car il y aura toujours des beef eaters ici. Nous savons qu'ils font partie de l'histoire de la tour et ils le resteront.
La perte de revenus liée au coronavirus est estimée par HRP à 100 millions d'euros et pour cause, 80% des recettes proviennent des visiteurs.
Élodie Goulesque à Londres. Un mot de météo pour finir ce journal. Le temps à venir pour demain. Le pays se réveillera dans la grisaille et le ciel va rester orageux dans une bonne partie du Grand Sud et sur les reliefs, autant sur les Alpes, les Pyrénées que la Corse. De belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs, Météo France annonce un scénario qui fera alterner passages nuageux et éclaircies. Les températures un peu plus fraîches qu'aujourd'hui dans la matinée. Les maximales de 19 à 30 pour le nord, jusqu'à 33 voire 36 dans le Var et le Gard.